Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Alors comment nos animaux perçoivent-ils le monde? C'est le premier sujet de cette émission. Et en compagnie de Benoît Grison, qui est biologiste, docteur en sciences cognitives, nous allons passer de l'autre côté du miroir. Il nous expliquera les incroyables capacités des animaux pour sentir, ressentir et voir leur environnement. Vous verrez que les animaux n'ont vraiment rien à nous envier en termes de perception. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous apporter vos témoignages au standard de Sud Radio si chez vous, vos animaux aussi vous étonnent parfois par leur capacité à ressentir les choses. 0826 300 300 vous attend, nous sommes en direct. Côté vie sauvage, on s'intéressera ce matin aux dauphins qui connaissent actuellement une véritable hécatombe. Pourquoi s'échouent-ils en masse sur nos plages depuis le début de l'année? Pourrait-on éviter cela? On en parle en compagnie d'une biologiste marine qui est membre du réseau national échouage. Enfin, dans C'est votre histoire, vous allez découvrir une discipline que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du dog dancing, autrement dit danser avec son chien. C'est Loanik, une jeune femme passionnée, qui viendra nous présenter ce sport assez méconnu, il faut bien le dire. Cette émission est réalisée par Maxime Sénat. Ça va mieux la petite coupe, Maxime? Le toiletteur est passé depuis un moment maintenant. Allez, 0826 300 300, vous attend au standard de Sud Radio.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans Vos animaux et vous, j'ai le plaisir de recevoir comme premier invité Benoît Grison. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Bonjour Natacha, enchanté de participer à cette émission.
Ça va être un plaisir parce qu'avec vous, on va apprendre plein de choses. Vous venez de publier un ouvrage absolument passionnant qui est intitulé « Les portes de la perception animale » aux éditions Delachaux et Nestlé. Vous êtes docteur en sciences cognitives, biologiste, sociologue en sciences. Voilà, le décor est posé. Grâce à vous, ce matin, on va passer de l'autre côté du miroir pour comprendre notre perception du monde et surtout celle des animaux. Et on va voir que nous, êtres humains, notre perception du monde n'est absolument pas universelle, puisque les animaux ont des facultés incroyables pour percevoir leur environnement. Percevoir le monde qui les entoure, c'est souvent d'abord une question peut-être de survie, Benoît Grison.
Oui, bien sûr. Si vous prenez par exemple le calmar géant, qui est quand même un animal extraordinaire, hein, c'est pas nos petits encornés qu'on mange dans les restaurants bretons, il fait jusqu'à 17 mètres de long. Ben, le calmar géant, il a un œil énorme, de la taille d'un ballon de volée. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'échapper frénétiquement à son ennemi, son prédateur majeur, le cachalot, qui est un grand gousier, qui ne se contente pas de menus fretins. Donc, si vous voulez, tous ces systèmes tactiles, visuels, de sensibilité au champ magnétique, c'est avant tout des fonctions de survie. Voilà. Et souvent pour échapper aux prédateurs ou pour mieux chasser et mieux se nourrir.
Dans votre ouvrage, vous citez par exemple l'exemple des girafes et de leur capacité à percevoir, sentir, je ne sais pas comment il faut dire d'ailleurs, les basses fréquences.
Oui, alors les basses fréquences, hein, pour situer, c'est en dessous de 20 Hz, en dessous de 20 cycles par seconde. Et bien, ces girafes qui nous paraissent si silencieuses, ou l'okapi, qui n'est jamais qu'une girafe de forêt, on a découvert que effectivement, ces animaux communiquent discrètement par des basses fréquences, des infrabasses, que nous ne percevons pas, nous, êtres humains, et que beaucoup de prédateurs potentiels ne perçoivent pas.
Est-ce qu'on peut faire un lien, Benoît Grison, entre justement ces capacités cognitives des animaux et leur niveau d'intelligence?
Alors, il y a un lien entre la perception et l'intelligence. En fait, la perception, c'est déjà de la cognition. Vous ne pouvez construire votre intelligence, vos raisonnements, vos stratégies d'anticipation pour survivre que si vous avez un bon système de perception. Mmh. Donc la perception, la cognition, ça commence avec la perception. Ou plutôt la perception est l'antichambre de l'intelligence, si vous voulez.
Oui. Alors pourtant, ce qui est étonnant, c'est que certains animaux qu'on considère, nous, avec notre regard d'être humain, comme des animaux peu évolués, comme les mollusques ou encore les céphalopodes. Oui. On les considère un peu en bas de l'échelle de l'intelligence et pourtant, ils ont des capacités absolument incroyables.
Oui, tout à fait. En fait, c'est là qu'on voit que l'évolution, c'est un arbre tridimensionnel buissonnant qui n'a pas de sommet de l'évolution. Et que chacun est à son sommet dans le sens où chacun est bien adapté à son milieu. Bon, les mollusques dits ordinaires, comme par exemple la coquille Saint-Jacques, sont déjà extraordinaires quand on les étudie d'un point de vue perceptif, parce que la coquille Saint-Jacques, non seulement a un système oculaire, mais a une sorte de miroir concave derrière son œil qui lui permet de percevoir très finement les mouvements, hein, notamment de prédateurs éventuels. Donc, ça, c'est en soi extraordinaire.
Vous dites que la coquille Saint-Jacques a un œil, hein?
Oui, mais enfin, un œil très primitif.
Il est
en fait, à l'intérieur de sa coquille, si vous voulez, vous avez une série de photorécepteurs qui permettent de percevoir le monde extérieur. Mm-hmm. Mais derrière, si vous voulez, la rétine de notre coquille Saint-Jacques, il y a en plus un miroir concave qui permet de détecter finement les mouvements des êtres vivants, notamment les prédateurs, toujours eux, qui peuvent rôder autour de la coquille Saint-Jacques. Mais les mollusques, ça s'arrête pas là. Il y a les céphalopodes que vous avez cités,
oui. Hein,
le poulpe, le calmar, auquel on faisait allusion avec le calmar géant tout à l'heure, la seiche. Et ceux-ci ont un œil, alors qu'ils sont des mollusques, par convergence évolutive, qui est aussi sophistiqué que celui des vertébrés.
Ah oui ?
Que vous et moi. Voilà. On les soupçonne même de voir les couleurs. Alors c'est tout à fait extraordinaire, cette convergence évolutive. En même temps, on partage, parce que c'est le grand arbre de la vie, certains gènes avec les mollusques et notamment le poulpe.
Pour certains, c'est assez flagrant. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde.
C'est pas très flagrant, mais c'est des gènes fondamentaux, des gènes qui servent à la construction oculaire. Et ces gènes qui servent à la construction oculaire, qui ont des centaines de millions d'années, eh bien, on les a en commun aussi avec certains insectes, avec les mollusques, etc. Donc avec les invertébrés, ce qui a permis au cours de l'évolution à la pieuvre, par sélection naturelle, de construire un œil comparable au nôtre pour survivre. Pour bien chasser, pour bien échapper aux prédateurs, voilà.
Alors justement, en termes de perception de son environnement, la pieuvre est quand même absolument remarquable. Moi, je vous conseille, très chers auditeurs de Sud Radio, un film, un documentaire que j'ai découvert, comme beaucoup, parce que c'est un carton sur une plateforme, comme on dit en ce moment. Ça s'appelle La sagesse de la pieuvre. C'est absolument incroyable de voir cet animal. Je n'aurais jamais imaginé me fasciner pour les pieuvres. Et franchement, quand on découvre ce documentaire, les pieuvres sont absolument hallucinantes. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Grison ?
Ah oui, c'est un très joli film. Mais en fait, la sagesse de la pieuvre, on peut traduire ça par la cognition, l'intelligence de la pieuvre. C'est-à-dire que la pieuvre est capable de raisonnement, d'anticiper des stratégies. Elle peut résoudre des problèmes complexes, hein, comme certains mammifères en laboratoire, sauf que là, c'est en aquarium. Elle a des émotions riches, ça on le sait, qu'elle exprime par ses chromatophores, c'est-à-dire ses variations de couleurs sur le corps.
Oui.
Hein, quand elle est agressive, quand elle est stressée, elle ne manifeste pas les mêmes couleurs sur le corps. C'est repéré d'ailleurs par les autres pieuvres qui décodent ce code de couleur émotionnelle, même si les pieuvres sont pas très sociales. Mmh. Mais il arrive qu'elles le deviennent malgré elles. Des chercheurs un peu facétieux, et je rassure ceux qui sont sensibilisés à l'éthique animale, ont fait avaler à cette pauvre pieuvre une amphétamine, donc quelque chose, un produit psychostimulant.
Oui.
Et d'un coup, la pieuvre se met à se comporter de manière empathique et sociale vis-à-vis de ses congénères, ce qu'elle fait jamais, parce que c'est un animal plutôt solitaire. Or, certaines de ces amphétamines, quand nous, êtres humains, on les prend, ce qui est surtout pas recommandé d'un point de vue médical et même prohibé, nous avons tendance aussi à hypertrophier notre affection, même pour des inconnus, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau de la pieuvre, eh bien, est beaucoup plus proche par son fonctionnement qu'on ne le pensait du nôtre, et son intelligence aussi. Et pourtant, il est très différent. Mais là encore, au cours de l'évolution, il a convergé avec le nôtre pour la survie et il a développé une cognition extrême et des capacités émotionnelles et intellectuelles sophistiquées.
Et chez nos animaux de compagnie, de quelle manière voit-il en fait le monde ? De quelle manière nous voit-il aussi ? Ressentent-ils les choses selon vous ?
Alors, en fait, si on prend les animaux familiers par excellence dans la culture occidentale, le chien et le chat, leur perception diurne à nos amis canins et félins, leur perception diurne n'est pas très performante parce que c'était plutôt, leurs ancêtres étaient plutôt des chasseurs nocturnes. Et donc, chats et chiens, ils sont très forts pour détecter les mouvements. Par contre, ils ont une vision un peu passer des couleurs dans une palette bleu-jaune, mais ce sont des formidables détecteurs de mouvements en période nocturne. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ils ont au fond de l'œil ce qu'on appelle une couche réfléchissante. Vous savez, quand on voit l'œil de notre chat ou notre chien briller avec une couleur bizarre, c'est ce qu'on appelle la couche réfléchissante du fond de l'œil, le tapetum, qui réfléchit la lumière qui arrive dans l'œil, ce qui fait que la lumière passe deux fois dans l'œil et qu'on voit mieux la nuit. Donc, en fait, nos chers compagnons qui maintenant n'ont plus guère à chasser, je crois, encore que certains chats sont un peu chasseurs quand même.
Beaucoup d'ailleurs.
Voilà, restent des nocturnes, des descendants de prédateurs nocturnes. Par contre, ils ont une vision un peu plus floue du monde le jour et un peu plus limitée que nous quand même des couleurs. Par contre, le chat a un champ visuel extrêmement ample, plus que le chien.
Et dans leur perception de leurs humains de compagnie?
Ah, alors là, c'est
est-ce qu'ils sont capables, par exemple, de ressentir nos émotions?
Oui, absolument. Alors, à différents niveaux, si vous voulez. Que ça soit le chien ou le chat, ils ont un odorat extraordinaire. C'est ce qu'on appelle, en termes pédants, savants, c'est des macrosomatiques, c'est-à-dire ils sentent des traces d'odeur très fines qu'on ne sent pas. Mm-hmm. Ils sont très sensibles, chat et chien, aux variations d'odeur qui traduisent parfois notre variation émotionnelle, en fonction de l'acidité de la peau. Ils sont très sensibles, bien sûr, au toucher, comme tous les mammifères, à l'interaction de toucher. Ils sont très sensibles au fait de marquer leur terrain familier avec des odeurs qui les rassurent, c'est le cas du chat. Et puis, si vous voulez, il y a une communication émotionnelle qui est forte chez ces deux animaux, le chien et le chat, qui passe pas que par le toucher. Dans le cas du chat, il y a le fameux ronronnement qu'on a mis longtemps à élucider. On savait pas trop comment il arrivait à ronronner, ce petit félin. Alors, on sait qu'il y a un ligament qui relie la clavicule et le cou, qu'on appelle le ligament hyoïde, et puis des petits muscles qui permettent de ronronner. Mais surtout, à quoi ça sert, le ronronnement?
C'est une bonne question.
Émotionnel et infantile. C'est-à-dire que, quand je dis comportement émotionnel infantile, cette expression un peu compliquée, ça veut dire qu'en fait, le ronronnement est un comportement vocal que le chaton développe vis-à-vis de sa mère.
Alors, justement, Benoît Grison, je vous interromps quelques instants, car nous avons plusieurs auditeurs qui nous attendent au standard de Sud Radio, car justement, eux aussi ont remarqué chez leurs animaux de compagnie leur capacité assez incroyable à ressentir les choses. On va commencer avec Claude. Bonjour Claude.
Bonjour à tous.
Bonjour Claude, on vous a fait attendre un petit peu. Excusez-nous Claude, vous avez plusieurs chats, je crois.
C'est intéressant. Oui, j'ai plusieurs chats, je viens d'en perdre une, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Ah. Et voilà, je voulais vous raconter juste une petite histoire qui en est pour nous une grande. Voilà, il y a quelques années, on a eu une disparition aussi violente que qu'inattendue dans la famille.
Oui, et, d'un membre de votre famille.
Oui, qui est décédé. Qui est décédé très, très, très violemment et très rapidement, donc personne s'y attendait. Donc voilà, et dans notre famille, on avait presque un peu chacun notre chat.
Oui.
Et ce membre de la famille avait une chatte, elle l'avait choisie, disons, parce qu'ils nous choisissent plus à la limite qu'on les choisit.
Ouais.
Voilà, et donc quelques jours avant ce drame, donc cette chatte avait un comportement vraiment inexplicable. Elle miaulait, elle était pas agressive, mais elle était agacée, elle était vraiment très perturbée. Et une fois que ça s'est passé, elle est revenue comme avant.
Ouais,
alors après le choc passé, on a essayé d'analyser est-ce qu'elle avait senti, elle, qu'il allait se passer quelque chose. C'était un peu...
En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez interprété.
Voilà, exactement, voilà.
Benoît Grison, ce témoignage de notre auditrice Claude est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment finalement dans ce que les propriétaires d'animaux nous racontent de leur vie avec leur animal.
Voilà. Alors en fait, déjà, il faut dire une chose, la science ne sait pas tout, il y a encore plein de choses qu'on découvre sur le comportement et la perception animale, et d'ailleurs c'est au cœur de mon livre, hein, quelque part. Et donc, il ne faut jamais dire que quelque chose est impossible tant qu'on reste bien sûr dans l'ordre du rationnel, hein, qu'on ne fait pas appel à des pouvoirs mystiques, etc. La science est rationnelle. Et en clair, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de chercheurs font l'hypothèse que quand votre état de santé, vous, maître ou maîtresse d'un chat domestique, commence à s'altérer, votre spectre d'odeur peut changer aussi. Voyez, oui. C'est-à-dire que...
D'ailleurs, ça a été clairement démontré pour des gens qui sont porteurs de cancer, où les animaux peuvent ressentir. C'est aussi vrai pour des problèmes non pas physiologiques, mais plus psychologiques.
Exact, tout à fait. On y faisait allusion tout à l'heure, quand on est en correcte forme physique, mais que un chat ou un chien détecte notre stress.
Bon. Merci beaucoup, Claude, en tout cas, pour votre témoignage. On a Ludovic aussi qui souhaitait témoigner sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Bonjour Ludovic.
Bonjour Natacha, bonjour Benoît. Donc oui, moi je voulais vous parler de mon chien qui ressent les émotions festives, notamment bon quand je suis au rugby, il aime bien faire la fête un peu avec moi, oui. Si je puis dire.
Mais même la troisième mi-temps.
Oui. Je ne vais pas dire qu'il finit les verres, hein, quand même pas.
Ah, je suis rassuré.
mais aussi, c'est surtout en cas de dispute, comme ça peut arriver dans beaucoup de couples, en cas d'engueulade ou de non-oiseaux qui fusent, ils viennent s'interposer entre nous en aboiement avec un regard noir comme s'ils n'aimaient pas ça. Et ils doivent vraiment le ressentir, puisque si on fait semblant de se disputer par contre, parce qu'on a fait les tests, là par contre...
Ah oui, vous êtes coquin en fait là.
Oui. Expérimentateur.
Oui. Non, mais là, voilà, quand on fait semblant, il ne réagit pas du tout.
Parce que votre émotion n'est pas du tout celle de la vraie dispute, donc il le ressent effectivement.
Oui, ça, c'est tout à fait vrai. On sait même maintenant qu'il n'y a pas que le spectre d'odeur et ses variations associées à nos changements émotionnels que perçoit le chien. Il est capable, comme l'ont montré des travaux hongrois là, ces 5 dernières années, de reconnaître les expressions émotionnelles sur notre visage.
Ah oui.
C'est dire qu'il a vraiment, par sélection artificielle, quand on l'a domestiqué, coévolué avec nous. Parce qu'il est tellement attaché à nous et tellement ousagué par rapport à nos ressentis qu'il est capable de voir quand nous avons une expression de visage agressive ou joyeuse, etc., de décoder ça cognitivement. Mm-hmm. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est ce que disait Ludovic, le simulacre, ça ne marche pas.
Ben
ça
oui, Ludovic, vous voyez.
Du décodage émotionnel.
J'entends.
Bon, en tout cas, merci pour votre témoignage, Ludovic, et puis privilégiez plutôt la fête du rugby que les disputes avec votre compagne. Voilà, ça fera plaisir aussi à votre chien. Merci, on vous souhaite un très bon week-end, Ludovic. Christian aussi souhaitait réagir. Christian qui a, je crois, un chien et un chat. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour Natacha, bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous.
Ah, c'est toujours un plaisir de vous entendre et d'être avec vous à l'antenne.
Super. Que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre ce matin?
Ah, c'est super. Bon, effectivement, les animaux sont très attentifs à ce que nous faisons. Moi, j'ai un croisé beagle anglo-français. Et déjà, ce matin, par exemple, je devais lui mettre sa pipette pour les puces. Et ne serait-ce que de vous... Pourtant, j'ai pas dit rien du tout. Je prends la pipette, elle m'a regardé. Eh bien, elle s'est sauvée. Il a fallu que je cours autour de la table, autour des fauteuils. Elle est allée sur le lit. J'ai réussi à la coincer sur le lit pour lui mettre la pipette. Et à chaque fois, c'est pareil.
Ah oui, elle anticipe en fait. Elle comprend que ça va être le moment qu'elle redoute.
Ah oui. Et pour lui faire avaler son cachet pour les vers, c'est pareil, quoi. Il y a pas moyen. Et pourtant, c'est une gourmande, mais même, par exemple, dans une crêpe, elle sent qu'il y a son cachet. Et elle en crache. Et avant, avec mon Golden Retriever, vous savez, j'ai eu un Golden, ben lui, c'était pour quand je l'amenais à la toilette pour le laver puis le toiletter, mais il fallait que je l'attrape quasiment au lasso pour l'amener sous la douche. Après, il se tentait tout de suite que j'allais... le toiletter. Alors c'est
vrai qu'ils sont remarquables. Hein. Ils sentent vraiment peut-être nos changements d'attitude quand on va faire telle ou telle chose qu'ils n'apprécient pas. On s'en rend pas forcément compte nous-mêmes, mais on a aussi une communication non verbale dans notre attitude qui fait que les animaux perçoivent extrêmement bien tout ça. Merci beaucoup Christian pour ce récit et de votre course poursuite avec votre chien de ce matin. Merci à vous. Benoît Grison, le temps passe très vite et vraiment, vous êtes passionnant à écouter. Moi, j'ai envie de vous demander, parmi tous ces exemples assez étonnants dans le règne animal, quel animal vous a peut-être le plus marqué parmi tous ceux que vous étudiez pour essayer de comprendre leur perception du monde ?
Ben, c'est sans doute le narval. Alors le narval, hein, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, c'est ce cétacé des mers froides, donc un cousin du dauphin et de la baleine, et surtout du dauphin, parce que c'est un cétacé à dents, qui a une dent transformée pour les mâles en une sorte de corne.
Hein. Oui.
Alors cette corne, cette défense qu'on prenait autrefois pour une défense de licorne et qu'on vendait comme telle en Occident, elle sert à pêcher, elle sert aux mâles à combattre entre eux à la saison des amours, mais elle sert aussi à percevoir tout un tas de choses. C'est un véritable détecteur de la qualité des caractéristiques de l'eau de mer, la corne du narval. Parce que, si vous voulez, vous avez des tas de terminaisons nerveuses qui affleurent à la surface de cette dent transformée, comme elles n'affleurent pas d'habitude, hein, c'est ces terminaisons nerveuses qui nous font mal quand on a une carie, et ces terminaisons nerveuses à la surface du rostre de cette corne du narval permettent de détecter les variations de pression, de salinité, de température dans l'eau. Alors vous allez me dire à quoi ça sert que le narval soit une sorte d'océanographe, voilà, qui étudierait la composition et les propriétés physiques et chimiques de l'eau qui l'environne. Eh bien, parce que le narval fait des migrations saisonnières et qu'il a besoin d'anticiper cognitivement la venue des glaces, de façon à ne pas être bloqué dans ses migrations. Et grâce à ces paramètres qu'il recueille, grâce à cet échantillonneur qu'est sa corne, eh bien, il peut anticiper la venue des glaces et partir à temps. Hein. C'est un animal social, il part en groupe. Et puis, en plus, on soupçonne que cette même corne détectrice sert à détecter les hormones sexuelles des femelles à la saison des amours.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Grison, pour toutes ces explications. Je conseille donc la lecture de votre ouvrage « Les portes de la perception animale » aux éditions de La Chaux et Nistlé. Merci à vous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes, nous parlerons des dauphins justement.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Si vous avez envie de danser avec votre chien et surtout de développer avec lui une belle complicité, restez avec nous, ce sera vers 10h45. Mais tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage.
Et j'ai le plaisir de recevoir Morgane Perry, biologiste marine, membre du réseau national Échouage. Bonjour Morgane.
Bonjour Natacha.
Avec vous Morgane, on va parler de cette situation alarmante des dauphins sur nos côtes françaises. Cette année, ce début d'année est une année record en termes d'échouage. De très très nombreux animaux ont été retrouvés morts sur nos côtes. Vous allez nous expliquer également que d'autres sont morts au large, pas encore arrivés sur les côtes, mais que c'est vraiment un phénomène qui est alarmant. Est-ce que peut-être on peut commencer par des chiffres Morgane ?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, ce qui est alarmant, c'est ça concerne une espèce en particulier qui est le dauphin commun et une zone particulière, même si elle est très grande, qui est la façade atlantique, hein, parce que des échouages de cétacés, il y en a naturellement tout le temps sur l'ensemble des côtes françaises, puisqu'ils meurent de causes naturelles et leur carcasse arrive sur les plages. Mais voilà, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est le nombre de dauphins communs qui s'échouent le long des côtes françaises, parce que eux, malheureusement, ne meurent pas de causes naturelles. Ils sont tués dans les filets des pêcheurs.
Mmh. Oui, il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas des, entre guillemets, pêches accidentelles ou des morts accidentelles. C'est vraiment aujourd'hui un problème de fond par rapport à la préservation de ces animaux qui ne sont pas prélevés volontairement par les pêcheurs, mais qui se retrouvent quand même pris dans leur filet.
Voilà, c'est tout à fait ça. Les pêcheurs ne cherchent pas à tuer les dauphins, ne ciblent pas les dauphins, mais c'est vrai que le terme de capture accidentelle ne convient pas, enfin le terme accidentel ne convient pas, parce que par définition, un accident, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, qu'on ne peut pas anticiper. Or, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des captures accidentelles de dauphins communs en France, et ça fait depuis 2016 qu'il y a une explosion de ce nombre-là, et que l'on sait malheureusement que tous les ans, on va retrouver plus de 1 500 cadavres de dauphins communs le long des côtes françaises, et que 6 500 cadavres représentent plutôt 10 000-15 000 dauphins tués en mer. Donc voilà pourquoi
oui,
le terme...
Oui, parce qu'évidemment, on comprend bien que tous les dauphins tués en mer n'arrivent pas sur les côtes, ne viennent pas s'échouer. Un certain nombre d'entre eux, et c'est même la majorité reste en mer. Donc on ne les voit pas, forcément.
C'est ça, voilà. On estime que, de manière générale, seulement 20% des cadavres arrivent à la côte. Et pourtant, voilà, on en récupère plusieurs milliers par an.
D'ailleurs, vous avez, enfin, quand je dis vous, c'est les gens, les scientifiques qui surveillent ces dauphins ont lancé une opération de recensement, de comptage de ces cadavres de manière aérienne.
Alors, en fait, il y a plusieurs campagnes aériennes là qui ont lieu depuis quelques années pour faire un suivi plus spécifique sur cette problématique des captures de dauphins communs.
Oui.
Après, là, actuellement, a lieu en France, sur la façade Manche et Atlantique, une grande campagne qui s'appelle la campagne SAM, qui, elle, a pour objectif de recenser l'intégralité des mammifères marins et de la mégafaune marine en France pour faire un état des lieux. Cette même campagne avait déjà eu lieu il y a 10 ans. Et malheureusement, pour la première fois au sein de ces campagnes aériennes, on compte aussi également les cadavres de dauphins communs parce que c'est devenu quelque chose de régulier. Donc voilà, on profite aussi de cette campagne pour aller voir un peu plus en détail ce qui se passe en mer, parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a autant de morts et pourquoi il y a autant d'échouages.
Pourquoi pouvez-vous affirmer que la grande majorité de ces échouages sont vraiment liés à ces captures dans les filets de pêche et pas à des morts que l'on peut attribuer à autre chose ?
Tout simplement parce que par l'intermédiaire du réseau national échouage, il y a plus de 300 correspondants qui sont répartis sur la France et qui, à chaque fois qu'un cadavre de mammifère marin est signalé, vont investiguer l'animal, vont faire des relevés, des mesures, des prélèvements, et on est formé à détecter les traces de capture, et ces traces, elles sont assez simples à reconnaître. Voilà, déjà on va inspecter l'animal par l'extérieur et souvent on va trouver des marques de filet en fait au niveau de la peau parce que l'animal se débat pour essayer de sortir quand il est coincé dans le filet. Donc on va trouver les mailles qui s'enfoncent dans la peau. Les nageoires aussi vont régulièrement être sectionnées. Donc ça c'est au moment où les pêcheurs vont avoir besoin de démailler le dauphin, de le sortir du filet pour l'extraire plus facilement. Ils coupent les nageoires. On trouve aussi assez régulièrement des animaux qui ont le ventre ouvert au couteau. Et ça, c'est les pêcheurs qui espèrent, entre guillemets, qu'ainsi le cadavre va plus facilement couler et qu'on ne le retrouvera pas sur les côtes. Donc, ce sera moins visible, entre guillemets.
Les pêcheurs ont l'obligation de déclarer lorsqu'un dauphin est pris dans leur filet ? Comment ça se passe d'un point de vue réglementaire ?
Alors tout à fait, il faut savoir que les dauphins sont intégralement protégés en France, que les blesser ou les tuer est strictement interdit et vous risquez des peines assez lourdes si c'est le cas, sauf pour les pêcheurs qui, dans le cadre de captures non volontaires, ne sont pas considérés. Donc voilà, ils ne risquent rien à signaler le fait qu'ils ont involontairement capturé des dauphins. Par contre, ils ont une obligation légale de déclarer ces captures. Ils ont même normalement l'obligation de ramener le cadavre à terre pour qu'il puisse être investigué au cours d'une autopsie. Alors après, souvent les bateaux sont trop petits, ils ne peuvent pas forcément ramener les animaux, mais ils sont censés avoir des bagues. Et ils doivent mettre une bague autour de la caudale de l'animal qui, lorsqu'il va arriver à la côte, sera reconnu, on sait exactement où il a été mis à l'eau, etc. Donc ils ont une obligation de déclaration et malheureusement ils ne respectent pas la loi.
Et pourquoi ? Parce qu'on a du mal à comprendre réellement ce que ça change justement de déclarer les choses à partir du moment où ils ne seront pas inquiétés par rapport à ça.
Ça c'est le gros problème que l'on rencontre, c'est qu'on a du mal à pouvoir échanger avec eux et savoir exactement. Je pense qu'ils ont peur des potentielles répercussions que pourrait avoir le fait de déclarer ces captures. Mais voilà, l'idée c'est pas du tout de leur créer des problèmes, c'est pas du tout d'interdire de manière globale la pêche, c'est simplement d'essayer de pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Parce que voilà, en plus là ça fait 5 ans que les choses ont vraiment évoluer dans un très mauvais sens, donc on cherche à essayer de comprendre pourquoi d'un coup il y a autant de dauphins qui sont capturés alors que le nombre de pêcheurs, lui, n'a pas
spécialement augmenté. Et quelles sont les pistes, justement, qui sont avancées dans les clés de compréhension de cette situation ?
Alors, on pense éventuellement qu'il y a peut-être eu un déplacement des animaux, c'est-à-dire qu'ils se seraient rapprochés un petit peu de la côte et que donc ils se retrouveraient plus régulièrement au niveau des
zones de
pêcheurs. Voilà. Donc ça, typiquement, les campagnes aériennes vont permettre de pouvoir voir un peu plus finement ce genre de choses. Mais après, il y a peut-être aussi eu des modifications dans les méthodes de pêche, des engins de pêche, etc. Et ça, malheureusement, ben, on n'a pas accès au bateau pour avoir ces informations-là. Alors que là également, il y a une obligation européenne d'avoir des observateurs embarqués sur les bateaux de pêche. Alors, qui vont noter quand des dauphins sont capturés, mais qui vont aussi noter tout un tas d'autres informations relatives aux prises qui sont faites par les pêcheurs. Et là également, la France est un des seuls pays européens à ne pas respecter cette réglementation parce que les pêcheurs refusent les observateurs à bord et rien n'est fait pour les contraindre à respecter la loi.
Et quelles seraient les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour éviter justement que les dauphins se prennent dans les filets des pêcheurs qui font leur boulot de pêche et bon, ça c'est normal, c'est que simplement il faut essayer de faire ce travail tout en préservant cette espèce qui est protégée.
Ben voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir avoir accès au bateau pour savoir exactement ce qui se passe, pour réfléchir avec les pêcheurs à des solutions, à des modifications de leur méthode de travail, tout en leur permettant de continuer à travailler, de continuer à pêcher. Et donc, ben pour ça, il faut déjà faire respecter la loi, c'est-à-dire que des observateurs embarqués embarquent, faire aussi qu'on puisse avoir des informations réelles sur où sont pris les dauphins quand ils déclarent les captures, ça, c'est anonyme et ça va permettre de savoir exactement à tel jour, dans telle zone, etc. Et ça, ce n'est toujours pas fait. Hein. Pour vous donner des chiffres, depuis le 1er décembre de l'année dernière, il y a eu 514 échouages qui ont été officiellement notifiés au ministère de la mer, alors qu'en fait, on en est à plus de 650 en réalité, mais il faut que les chiffres remontent. Et sur ces 514 échouages, il y en a seulement 34 qui ont été déclarés par les pêcheurs.
Donc, oui, déjà, donc on voit bien qu'il y a déjà un problème de fond, d'autant plus qu'on a bien compris tout à l'heure que les animaux qui s'échouent sur les côtes, c'est grosso modo un cinquième de ceux qui décèdent en mer.
Voilà, c'est ça. Donc pour qu'on puisse vraiment comprendre, il faudrait qu'on ait l'information à la source et pas l'information de manière détournée, entre guillemets, même si les échouages nous apprennent beaucoup de choses, mais ça reste... On n'a pas l'information en direct. Après, il faudrait aussi pouvoir installer des caméras à bord des bateaux, pour pouvoir savoir dans quelles circonstances...
Je pensais qu'il y avait une annonce qui avait été réalisée par le ministère de l'Environnement en ce sens.
Alors, c'est le ministère de la mer, c'est pas le ministère de l'Environnement. Mais alors, effectivement, il y a eu des annonces, donc ça doit être fait. Mais voilà, ce qui nous pose problème, c'est que ça va être fait à trop petite échelle. C'est seulement 5% des bateaux qui vont être équipés. Et en plus, c'est sur la base du volontariat que les bateaux, les pêcheurs, les patrons de pêche vont accepter des caméras à bord. Sauf qu'on voit bien que c'est un système qui ne fonctionne pas puisque l'embarquement des observateurs se fait aussi sur la base du volontariat. Sauf que si un patron de pêche dit non, eh bien un observateur n'embarque pas et on n'a pas l'information. De plus, il est reproché de ne pas avoir suffisamment de données scientifiques pour vraiment comprendre le phénomène avant de prendre des mesures. Or, demander aux gens le choix de participer ou pas, c'est pas une méthode très scientifique. Non, il faut choisir de manière aléatoire des bateaux répartis sur les différentes zones, répartis par méthode de pêche, répartis par taille de bateau. Et voilà, et on leur met les caméras. Alors bien entendu, encore une fois, ce sera anonymisé. L'idée, c'est pas de fliquer les pêcheurs, c'est juste d'essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer de trouver des solutions pour concilier et la pêche et arrêter ce massacre.
Est-ce qu'il y a une saisonnalité, Morgane Perry, dans ces échouages ?
Alors, jusqu'à l'année dernière, je vous aurais dit oui, parce que d'habitude, ça se passe plutôt en hiver, donc c'est-à-dire de décembre à avril, où on va vraiment avoir les grosses périodes de capture. Alors, il y a toujours cette forte période, mais sur l'année 2020, pour la première fois, en fait, la saison ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des dizaines d'échouages par semaine en plein été.
Et comment donc, on l'explique, ça ?
Eh bien, encore une fois, malheureusement, on n'a pas d'explication, on a pu simplement faire le triste constat de continuer à voir arriver les cadavres sur nos plages, mais on n'a pas encore d'explication de pourquoi ce phénomène s'intensifie. Et voilà ce qui fait que ça nous inquiète vraiment et qu'il faut prendre des mesures de manière urgente parce que ça fait quand même déjà plusieurs années que le nombre de dauphins communs tués est très très important et bien au-delà du seuil supportable pour la population. Donc si ça doit encore durer comme ça pendant une décennie, a priori la population de dauphins communs dans le golfe de Gascogne disparaîtra. À ce rythme-là, c'est totalement insoutenable pour la population. Donc, il faut prendre des mesures et des mesures maintenant et ne pas attendre pour encore faire de la collecte d'informations indirectes pour ensuite éventuellement réfléchir à des solutions. On a les informations, même si elles ne sont pas encore...
Il est temps d'agir.
Voilà,
très spécifique. Il est grand temps d'agir.
Il est très très grand temps d'agir si on ne veut pas voir disparaître ces animaux.
Merci infiniment Morgane Perry pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes biologiste marine et membre du réseau national Échouage. Allez, tout de suite, c'est notre question veto.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Bonjour Josiane, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio ce matin. Vous aviez une question à m'adresser, je vous écoute.
Oui, bonjour. Je veux accueillir un chiot. Il sera donc séparé de sa mère et de sa fratrie.
Oui.
Et le moment va être très difficile pour lui. Et j'ai cherché comment adoucir cette période.
Ah, c'est bien de se poser la question déjà.
Alors, il semblerait que les phéromones d'apaisement soient le bon plan pour l'aider. Alors, ma question, quelle est l'origine de ces phéromones et comment peut-on se les procurer en conditionnement, j'imagine, sous une forme ou une autre?
Alors, ces phéromones d'apaisement peuvent aider à diminuer le stress de ce moment effectivement crucial pour le chiot.
Oh,
il
oui.
va quitter son élevage, sa maman, sa fratrie, arriver dans une nouvelle famille. Mais avant de penser aux phéromones d'apaisement, moi j'ai envie de vous dire, Josiane, il faut hiérarchiser les actions. Premièrement, il faut vous adresser à un élevage sérieux parce que on sait que les éleveurs sérieux vont sevrer les chiots dans de bonnes conditions, pas trop tôt, jamais avant l'âge de 8 semaines. Voilà, que les choses seront faites pour diminuer un maximum le stress. Et c'est tellement plus important que le recours à des phéromones parce que je ne veux pas dire que les phéromones n'ont pas d'intérêt. Je veux simplement vous dire que si déjà ce process qui est vraiment très important de la gestion du sevrage n'est pas fait correctement, vous pourrez utiliser toutes les phéromones de la terre, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est le premier point. Avez-vous déjà choisi votre chiot, votre élevage? Est-ce que vous savez déjà un peu comment vous allez faire?
Oui, j'ai choisi le chiot et je pense que je suis dans un bon élevage.
Bon, alors ça, c'est déjà...
Puisque le chiot ne me sera donné qu'à presque 3 mois.
D'accord, ça c'est déjà un point qui est absolument crucial. Ensuite, quand ce chiot va arriver chez vous, il y a un moment clé qui va être sa première nuit, sa première journée en votre compagnie. Les conseils que j'ai envie de vous donner, Josiane, c'est d'abord de ne pas dormir avec lui la première nuit en vous disant ça va le rassurer. Parce que vous allez mettre en place un mode de fonctionnement qui ne sera pas forcément le bon, sauf si vous avez décidé toute votre vie de dormir avec votre chien. Mais si ce n'est pas le cas, et je vous conseille quand même d'éviter de dormir avec votre chien, il faut tout de suite lui acheter ce qu'il faut, un petit coussin qui est à sa taille, qui est rassurant pour lui. Vous pouvez mettre dans ce coussin un t-shirt ou un vêtement qui va porter votre odeur, un foulard. Attention, hein, vous ne l'imprégnez pas de parfum juste avant de lui mettre, simplement quelque chose que vous aurez porté. Ça va être une forme de rassurance et quand petit à petit, vous allez le laisser seul quelques heures dans la journée, il aura toujours cet élément de rassurance à ses côtés. Et puis, vraiment, essayer de lui consacrer beaucoup de temps à son arrivée, de le sortir un maximum. À partir du moment où il est vacciné, vous pouvez le sortir en extérieur. S'il ne l'est pas, vous le sortez dans des endroits qui ne vont pas présenter de risque majeur de contagion pour les maladies qui sont transmissibles de chien à chien. Mettez-lui des jouets. Voilà, faites déjà tout ce petit protocole. Et si ça vous rassure, vous pouvez utiliser des phéromones. Il y a effectivement des phéromones qui sont des phéromones d'apaisement, qui sont des produits de synthèse que la maman chienne, normalement, à l'état naturel, produit pour apaiser ses petits. Ça se trouve sous forme de spray, ça peut se trouver sous forme de collier. Ce sera un plus, mais ce plus, il ne va pas remplacer tout le reste. Et pour répondre complètement à votre question, vous allez trouver ces phéromones soit chez votre vétérinaire, soit dans des magasins spécialisés. Mais n'oubliez surtout pas de faire tout le reste.
D'accord, merci.
Voilà, Josiane, vous nous tenez au courant de l'arrivée de ce petit chien.
Pas de souci, je le fais.
Super, merci à vous. Allez, on marque une courte pause avant de parler d'une discipline sportive qui s'appelle le dog dancing.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente...
Sud Radio, vos animaux, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire, ce matin, nous allons découvrir l'histoire de Louannick. Bonjour Louannick.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Louannick, vous avez 24 ans, vous habitez à Limoges et vous êtes passionnée par une discipline assez méconnue, je pense ne pas exagérer en disant cela. Vous êtes passionnée de dog dancing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Alors, dans le dog dancing, donc c'est une discipline où on enchaîne des tours en musique. Donc, les tours, ça va être, par exemple, faire un slalom, tourner autour d'un objet, assis, couché. Enfin, des choses que, finalement, on connaît bien. Mais ce qu'on sait pas, c'est que tout ça, on peut le mettre dans une certaine cohérence, dans un univers, avec une musique, dans une certaine fluidité.
Et avec votre chien, bien sûr. Hein.
Avec le chien, évidemment.
Vous, Louannick, donc vous avez deux chiens avec lesquels vous pratiquez cette discipline. Est-ce que toutes les races de chiens peuvent pratiquer le dog dancing ?
Tout à fait. Alors du coup, en fait, moi j'ai des races plutôt atypiques pour le dog dancing. C'est-à-dire que moi je travaille avec Napo, un Podenco. Donc c'est le seul en France à le faire en compétition.
Oui.
Et Ouria, ma pincher nain, on est moins de 5 pincher nains à le faire. Donc oui, évidemment, on a beaucoup de chiens de berger qui le font. Parce que c'est des chiens dits de travail, mais tous les chiens peuvent exceller. Ils ont tous justement leurs caractéristiques qui font qu'ils feront plus ou moins de choses différentes selon déjà leur capacité physique, leur taille et tout ça.
Et alors quand vous faites des compétitions de dog dancing, puisque oui ça existe, hein, on peut pratiquer ce sport en compétition, comment ça se passe ? Vous avez un peu comme les patineurs, des figures libres, des figures imposées, racontez-nous.
Alors, en dog dancing, en compétition, il y a deux disciplines différentes. Il y a le freestyle. Donc là, en freestyle, on fait absolument toutes les figures que l'on souhaite, tant que ça reste dans le respect du chien.
Oui. Vous pouvez faire quoi, par exemple, comme genre de figure ? C'est quoi votre spécialité à vous ?
Alors, moi, ma spécialité, c'est quand ma chienne tourne autour de moi et saute au-dessus de mes jambes en même temps.
D'accord.
Mais ça, c'est une figure que j'ai plus ou moins inventé.
D'accord.
Mais ça peut être aussi faire un slalom entre les jambes, tourner autour d'un objet, rouler ou tourner sur soi-même. En fait, on n'a vraiment aucune limite tant que ça respecte le physique du chien.
Et comment on invente des figures, Louannick ? Est-ce que c'est votre chien qui vous inspire parce qu'à un moment donné, il va faire telle chose et vous vous dites, tiens, ça ce serait super, il faudrait qu'on arrive à le refaire en dansant ?
Je fonctionne quasiment que comme ça. Enfin, moi, je suis venue dans le dog dancing comme ça, en fait, en observant ma chienne. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de renforcer tout ce qui fait plaisir au chien. Donc, on va aller au début dans les comportements qu'il propose lui-même. Et puis après, avec différentes méthodes d'apprentissage, on va pouvoir travailler des choses qu'il n'aurait pas proposées naturellement.
Alors, vous nous avez parlé du freestyle et il y a aussi un deuxième volet en compétition où là, on vous impose des choses ?
C'est ça. Alors, ça s'appelle le HTM, Heel Work to Music.
Oui.
Et là, c'est en fait le chien qui doit travailler collé au pied.
D'accord.
Mais il y a 10 positions différentes. Donc, le chien entre les jambes, à l'envers, à l'endroit, le chien derrière les jambes, le chien à la jambe gauche, jambe droite, devant. En fait, en tout, il y a 10 figures. Et là, il faut inventer la chorégraphie avec ces 10 positions obligatoires, plus quelques autres qu'on a le droit de rajouter. Mais ça doit vraiment rester maximum les figures imposées, en fait.
Et vous choisissez vos musiques, comment ça fonctionne ? Vous êtes, j'allais dire déguisé, c'est pas le mot juste. Vous êtes en tenue d'apparat, on va dire, de scène.
Voilà, c'est ça. En fait, on choisit... moi, j'aime bien dire que je choisis un thème avant de choisir la musique. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter. Et après, je vais trouver justement le costume, le décor, la musique pour raconter cette histoire au mieux.
C'est assez étonnant, finalement, cette discipline, elle nous vient d'où ?
C'est Marie Ray, une Anglaise, qui l'a inventée.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui pratiquent en France ?
Alors, c'est un peu compliqué. Alors, disons, en compétition, on est environ 300.
Ouais.
Mais, par exemple, c'est vrai que sur les réseaux, notamment, il y a la communauté Danse avec ton chien, où il y a plus de 5000 personnes. Donc, qui ne pratiquent pas en compétition, mais qui s'y intéressent et qui pratiquent chez eux pour s'amuser avec leur chien.
Et qu'est-ce que ça apporte dans la relation qu'on a avec son chien ?
Je dirais tout.
Oui, j'imagine beaucoup de choses. Mais...
le dog dancing, ma vision du dog dancing, c'est quelque chose de fun, de positif, en bienveillance. Et en même temps, en rendant le chien plus acteur de ce qu'il fait, le chien, il fait pas seulement ce qu'on lui demande, il peut proposer des choses. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux où le chien ose être lui.
Vous avez l'impression que vos chiens, Louanik, excusez-moi de vous couper, prennent vraiment plaisir quand ils font ça à vos côtés. Vous le voyez, vous le ressentez?
Oui, c'est assez fou. Alors, Ouria, je l'ai eue, elle était chiot. Donc, disons que j'ai pu un peu la façonner, peut-être, dans mes attitudes. Mais Napo, c'est un chien que j'ai adopté quand il avait 1 an, qui a vécu l'horreur dans les rues espagnoles. Et j'avais pas forcément prévu ça. Et c'est lui qui s'est imposé dans une séance avec Ouria et qui a commencé à poser, à proposer des choses. Et en fait, c'est ce qui l'a ramené vraiment à la vie. Enfin, sans ça, il aurait été très très différent, ce chien-là. Et donc oui, enfin, il me propose tout le temps des choses.
Et une dernière question très rapidement. Les gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans le dog dancing, quel conseil vous leur donnez?
L'idéal, c'est de se rapprocher de ce qui existe déjà. Donc, ça peut être les clubs canins qui le pratiquent. Il n'y en a pas beaucoup. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos et d'articles, notamment sur la communauté Danse avec ton chien. Mm-hmm. Mais voilà, et toujours garder à l'esprit qu'on fait avant tout pour son chien et pas pour le regard des autres, pas pour tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment le chien en priorité.
Eh bien, merci beaucoup, Louanik. Ce sera notre mot de la fin. Quel joli mot de la fin, justement. Merci, on vous embrasse. Passez un très bon week-end. Merci à vous aussi, très chers auditeurs de Sud Radio, pour votre fidélité. À bientôt, à la semaine prochaine.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.